France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les cardinaux à l'heure du choix, début du conclave cet après-midi au Vatican pour élire le 267e pape de l'histoire. Nous sommes sur place dans un instant, nous verrons notamment quelle est l'influence des cardinaux français, ils sont 5 sur 133. À suivre encore, l'Inde et le Pakistan et ses violences inédites depuis près de 20 ans la nuit dernière. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Les tensions se cristallisent autour d'une région.
Le Cachemire, région himalayenne disputée par les deux pays depuis la partition de l'Inde en 1947.
A tout de suite pour vos explications. À suivre encore, la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui espère encore sauver sa réforme de l'audiovisuel public. Le plan d'Elisabeth Borne pour convaincre les jeunes filles de se lancer dans les études scientifiques. Nous verrons ce qu'en pensent les principales intéressées. Et puis dans une vingtaine de minutes, les choix cinéma d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
À commencer par Un monde merveilleux.
Oui, c'est une comédie d'anticipation avec Blanche Gardin et c'est réjouissant. Je vous parlerai aussi d'un thriller sur le business du football et d'un drame tunisien tiré d'une histoire vraie.
De foot, il sera également question dans ce 13-14 avec la demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Peut-être une deuxième finale dans l'histoire du PSG. Nous verrons que du beau monde est attendu ce soir au Parc des Princes. Et puis à partir de 13h30, le foot loin de la lumière, celui des agressions d'arbitres, plusieurs centaines chaque année dans notre pays. Comment réagir? On en parle avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Patrice Trappier du 1 Hebdo et les allergies des Français. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le pianiste de jazz Yaron Herman avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il était né en Corrèze, il a ramené la papauté à Rome, mais depuis Grégoire XI, mort en 1378, la France n'a plus eu de pape. Nous verrons quelle sera la conclusion du conclave qui débute cet après-midi au Vatican. Ils sont 133 cardinaux électeurs à se réunir dans le secret de la chapelle Sixtine pour donner aux 1,4 milliard de catholiques du monde un chef des catholiques nombreux. Place Saint-Pierre ce matin comme Maryse et Nadine.
On est surtout émerveillés, on se rend compte de ce moment unique dans notre vie. Et je suis guadeloupéenne, j'aurais jamais pensé être là en ce temps de conclave à Rome, pour ma première fois en plus. Donc toute mon émotion là qui ressort, vraiment.
Je pense qu'aujourd'hui on ne se rend pas réellement compte de la portée du moment. Je pense qu'on s'en rendra compte dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et on pourra dire à nos enfants, à nos petits-enfants, nous l'avons vécu. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, vivre ce moment-là ici, avec toute une communauté, je le conseille à tout le monde. Si on peut vivre une fois dans sa vie, c'était maintenant et nous sommes là. Donc,
Vous avez une petite chance de voir la fumée blanche, hein, n'est-ce pas?
Ah, ben, c'est notre grand souhait.
Ça serait notre souhait, alors ça serait la cerise sur le gâteau.
Ah, ouais, vivre ça encore plus, incroyable.
Voilà ces deux Françaises interrogées ce matin par Agathe Mahuet. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes également installé sur cette place Saint-Pierre. Les 133 cardinaux sont déjà arrivés à la basilique Saint-Pierre, Bruno, et cet après-midi, ils vont donc s'enfermer. C'est d'ailleurs le sens du mot conclave.
Et avant cela, la journée a commencé par une dernière réunion de tous les cardinaux, y compris les non-électeurs, lors d'une messe publique à la basilique Saint-Pierre, présidée comme les funérailles du pape par le doyen Monseigneur Rey.
Nous sommes ici pour invoquer l'aide de l'Esprit Saint, afin que soit élu le pape dont l'Église et l'humanité ont besoin en ce tournant si difficile et si complexe de l'histoire.
Les tensions du monde évoquées alors que les prélats s'apprêtent à s'enfermer en conclave, ce sera à partir de 16h-16h30, la procession vers la chapelle Sixtine en scandant la litanie des saints et le Veni Creator, vient Esprit Créateur. Sous la menace du jugement dernier de Michel-Ange, ils prêteront serment de secret sur l'Évangile, puis ils prendront place sur les tables beige et rouge disposées le long des murs de la chapelle. Extra omnes, dira le maître des célébrations liturgiques, en dehors tous, les quelques personnes extérieures au collège encore présentes partiront, ils passeront au vote.
Bruno, on vous retrouve dans un instant, juste le temps d'aller faire un crochet dans l'une des églises pour revenir à cette question. Le futur pape peut-il être français? Le nom de l'archevêque de Marseille, on le sait, Jean-Marc Aveline, revient beaucoup. Cécile Bideau, l'une de nos reporters, s'est rendue au Vatican, à l'église Saint-Louis des Français.
La messe vient de se terminer, les fidèles se dispersent. Il y a moins de deux semaines, c'est Jean-Marc Aveline lui-même qui présidait la célébration ici, co-célébrée par le cardinal d'Ajaccio, François Bustillo, deux Français très en vue à Rome. Christian, un Breton en pèlerinage, s'interroge sur le poids réel des cardinaux français dans ce conclave.
Il pèse sûrement peu quand on voit aujourd'hui la place de l'Église de France dans l'Église mondiale, mais le cardinal Aveline est quelqu'un d'avenant, qui était proche aussi du pape François. Et nous, on a besoin d'une église qui soit, on dira, au centre pour rassembler tout le monde.
Vous y croyez, un pape français?
On espère, pourquoi pas, il faut prier pour ça.
Sur le parvis de Saint-Louis des Français, un groupe de Lillois est rassemblé autour du prêtre qui les accompagne. Benoît de Banst enseigne la théologie à la faculté catholique de Lille.
C'est bien en fait que toutes les nations soient représentées, mais surtout dans l'église, les nationalismes doivent pas disparaître, mais être relatifs à la fraternité universelle. Moi, je pense que les cardinaux sont très conscients de ça. Si c'est juste pour nationalité, c'est quand même bien triste. Hein. De toute façon, Dieu nous dépasse complètement. Hein. Donc, nous, on a peut-être nos petits calculs, je sais quoi, mais lui, quand on calcule, il rit. Hein.
Le dernier pape français, c'était Grégoire XI, il y a 650 ans.
Reportage Cécile Bideau, Bruno Duvic, on vous retrouve. Que valent ces bruits, que valent ces murmures d'avant-conclave?
Alors, je vous cite par exemple ceux du grand journal italien La Repubblica ce matin. En hausse, le français Aveline, tiens, le philippin David et l'italien Pizzaballa. Il y a trois autres prélats à la rubrique stable, trois autres en baisse. À quoi ça correspond? Eh bien, à des confidences de cardinaux qui ont participé aux réunions préparatoires au conclave. Ces trois noms, par exemple, un cardinal que j'ai rencontré cette semaine me les a cités. Cela peut reposer sur les interventions qu'ils ont faites lors de ces réunions, qui ont pu convaincre les électeurs, les discussions informelles jouent, les sujets évoqués lors des congrégations générales, qui les incarne. Et puis, dans un collège électoral à la fois très fourni et divisé, il y a une prime à ceux qui ont un profil de rassembleur. Ce soir, le premier tour, nous n'en saurons rien, mais les cardinaux électeurs verront alors combien de noms émergent vraiment, à moins qu'il n'y ait un élu dès le premier tour. Ce serait une grande surprise.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. On va vous retrouver notamment dans l'émission spéciale ce soir sur Inter entre 18h et 20h en direct de la place Saint-Pierre autour de Fabienne Sintès. J'ajoute qu'un cardinal indien issu de la caste des intouchables les plus pauvres d'Inde, il sera le premier de l'histoire de l'Église à participer ce soir à ce conclave. Ce qui nous amène à l'autre grand titre à l'étranger aujourd'hui. Ces affrontements, donc, entre deux puissances nucléaires d'Asie, l'Inde et le Pakistan la nuit dernière, les plus violents de ces 20 dernières années. Bombardement de l'aviation indienne, tirs d'artillerie pakistanais en réponse, 12 morts côté Inde, 26 côté Pakistan. Tout cela se passe le long de la frontière contestée du Cachemire, endeuillée par un attentat anti-indien le mois dernier. On va revenir sur cette région dans un instant, véritable poudrière. Avant cela, le Pakistan qui demande ce matin au monde de faire rendre des comptes à l'Inde. Sonia Ghezali est notre correspondante sur place. Elle a pu s'entretenir avec un habitant de la région du Punjab. Il vit à quelques kilomètres seulement d'un site bombardé.
Les habitants se demandent s'ils sont en sécurité après la nuit dernière. Il était environ 1h du matin lorsqu'ils ont été réveillés par des déflagrations. Ghulam Mohaouyuddin Bukhari, un résident, nous raconte au téléphone ce dont il a été témoin.
Il y a eu une énorme explosion, c'était la nuit. Il y a eu tellement de détonations qu'on s'est immédiatement précipité sur le toit de notre maison. Là, on a vu une lumière orange qui est devenue rouge sous nos yeux. Et environ 5 secondes plus tard, on a entendu une autre explosion. Et c'est là que les gens ont commencé à se précipiter hors de chez eux. Maintenant, après ce qui s'est passé la nuit dernière, tout le monde a peur. Mais en même temps, le moral est bon et on est prêt à faire face à n'importe quelle situation.
Une désescalade est peu probable à ce stade. En témoigne le communiqué publié à l'issue du Conseil national de sécurité qui s'est tenu ce matin. Le Pakistan se réserve le droit de répondre à l'Inde en toute légitime défense, peut-on lire. Les forces armées pakistanaises ont été autorisées à entreprendre les actions correspondantes à cet égard. Fin de citation. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
Valérie Crovin, on vous retrouve, rédaction internationale de Radio France. Ce conflit trouve donc sa source au Cachemire.
Oui, cette région à cheval entre l'Inde et le Pakistan est une zone de tension depuis 1947, lors de la partition de l'Inde. Le Maharaja hindou qui régnait sur cette province peuplée essentiellement de musulmans avait choisi de ne se rallier ni à l'Inde ni au Pakistan. Mais après des incursions de tribus venues du Pakistan, il avait dû se résoudre à faire appel à l'armée indienne. Il accepta finalement de rattacher son royaume à l'Union indienne tout en négociant une certaine autonomie. Majoritairement musulman, le Cachemire devient donc un territoire indien, ce que le Pakistan n'a jamais accepté. Islamabad lance une offensive armée qui sera à l'origine de la première guerre indo-pakistanaise. Le conflit prend fin en 1949 avec une partition du Cachemire. Le Pakistan récupère une partie du territoire, l'Azad Cachemire, le Cachemire libre, l'autre le Jammu Cachemire restant indienne. Une ligne de contrôle est créée. Depuis, les hostilités n'ont jamais cessé, avec un troisième acteur, et non des moindres, la Chine, qui soutient les revendications du Pakistan et contrôle une région frontalière du Cachemire indien, revendiquée par New Delhi. Si l'on ajoute que la reconquête du Cachemire figure à l'agenda des nationalistes hindous incarnés par le Premier ministre Modi et son ministre de l'Intérieur Amit Shah, vous avez tous les ingrédients pour que ce conflit soit explosif.
Explication signée Valérie Crova. En Russie, les frappes ukrainiennes de ces derniers jours perturbent le trafic aérien. 350 vols ont été annulés ou retardés depuis hier. La Russie se prépare à célébrer en fin de semaine et pendant trois jours le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Pour être tout à fait précis, la première signature de la capitulation allemande a eu lieu il y a 80 ans aujourd'hui. C'était le 7 mai 1945 dans une école de Reims où une cérémonie avait lieu hier soir. Mais l'histoire a retenu la date du 8 mai, jour de son entrée en vigueur. Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé ce matin à Paris, à l'Elysée, accueilli par Emmanuel Macron. C'est sa première visite officielle à l'étranger. Le chef de l'État qui précise qu'il veut répondre ensemble, donc avec son homologue allemand, aux défis que l'Europe affronte.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'était sa première interview depuis qu'elle a échoué il y a un mois à faire voter le projet de réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. La ministre de la Culture, Rachida Dati, ce matin sur France Inter, assure qu'elle n'a pas renoncé à cette proposition de loi qui vise à créer une holding, une direction commune entre Radio France, France Télévisions et l'INA, c'est-à-dire 15 000 salariés. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
On va revenir sur cette réforme, mais d'abord sur les chiffres du budget de la culture. La ministre a assuré ce matin qu'il n'y avait pas eu de coupe dans ce budget pour 2025. Il n'y a pas eu de baisse, mais une augmentation, a-t-elle dit. Qu'en est-il ?
Alors, si l'on reprend le budget voté définitivement en février, par rapport à 2024, la somme accordée à la culture est stable. Les crédits de paiement, ce que le ministère peut payer sur l'année, augmentent même légèrement, plus 0,36%, mais c'est sans compter l'inflation. En revanche, ce qui baisse, ce sont les autorisations d'engagement, les dépenses qui s'étalent sur plusieurs années, comme les investissements. Ça, c'était pour le vote en février. Et puis, il y a eu une révision de la prévision de croissance à la baisse et un effort budgétaire demandé par Bercy à tous les ministères. Un décret a été publié le 26 avril au Journal officiel. Pour la culture dans sa globalité, ça représente bien une annulation de crédit de près de 110 millions d'euros, 47 millions. Par exemple, pour le spectacle vivant que ce matin, le ministère me confirme, mais selon lui, cet argent était en réserve et les actions prévues ne seraient pas impactées.
Bon, une fois tout cela précisé, revenons au texte de loi sur l'audiovisuel public. Donc, la ministre parle d'un retour possible à l'Assemblée au mois de juin. Qu'en dit-on chez le Premier ministre ?
Aucun engagement formel pris en tout cas ce matin à l'issue du Conseil des ministres par la porte-parole du gouvernement Sophie Prima. Le calendrier, dit-elle, est un casse-tête et le retard s'accumule. L'objectif, c'est avant la pause estivale, me confirme malgré tout Matignon. Mais une autre source ministérielle me confie son scepticisme, car en juin, à l'ordre du jour gouvernemental, deux textes fondamentaux Sceaux sont déjà prévus. La programmation pluriannuelle de l'énergie et le projet pour la refondation de Mayotte, ce n'est pas décalable, me dit-on. Peu de place donc. On le comprend pour cette réforme que Rachida Dati a justifiée encore ce matin en reprochant au service public de l'audiovisuel d'être devenu un club, dit-elle, ne s'adressant qu'au CSP+ et aux plus âgés. Selon Médiamétrie, France Inter enregistre pourtant de fortes audiences auprès des publics jeunes. Plus d'un million d'auditeurs ont moins de 34 ans.
Merci Élodie Forêt. Deux députés ont été sanctionnés ce matin. L'insoumis Andy Carbrat et l'ex-Rassemblement National Christine Engrand, exclus deux semaines de l'Assemblée. La moitié de leurs indemnités parlementaires suspendues pendant deux mois. Le premier pour avoir utilisé ses fonds pour acheter de la drogue. La seconde pour s'en être servi pour payer entre autres la pension de ses deux chiens, un abonnement à un site de rencontre ou encore des frais d'obsèques. Là, c'est un déplacement à l'étranger de députés et de sénateurs français qui interrogent. Une trentaine d'élus vont se rendre en Algérie demain pour commémorer les 80 ans des massacres du 8 mai 1945 dont s'est rendue coupable la France, alors puissance coloniale. Des dizaines de milliers de morts, c'est l'insurrection de Sétif. Une visite en Algérie alors qu'Alger emprisonne l'écrivain Boualem Sansal et a lancé deux mandats d'arrêt internationaux contre un autre écrivain, Kamel Daoud. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour Jérôme.
Que disent ces élus ?
Qu'ils travaillent déjà depuis un an sur la mémoire des massacres du 8 mai 45 en Algérie et que dans le contexte actuel, leur déplacement peut aider à calmer les tensions diplomatiques, comme l'exprime la députée PS Fatia Keloua Hachid depuis Alger.
Le but, c'est d'apaiser. Hein. Le but, c'est de faire de la médiation entre les deux pays et d'apaiser. Aller à ces commémorations, c'est aussi dire à l'Algérie: nous sommes sur un chemin de reconnaissance. Pour nous, c'est important.
À ses côtés, des parlementaires et élus de gauche, du centre, mais personne à droite. Yann Boucard, député LR, membre du groupe d'amitié France-Algérie, relativise l'initiative de ses collègues.
On n'a jamais vu des relations diplomatiques reprendre entre deux pays parce que quelques députés ou sénateurs s'étaient déplacés. Il faut quand même arrêter de rigoler.
Il redoute même une instrumentalisation par Alger si les élus français n'abordent pas les sujets de tension.
Aller en Algérie sans parler de Boualem Sansal, de Kamel Daoud ou de la question des OQTF, ça n'a aucun sens. Du coup, je n'en vois pas le but.
Ce n'est certes pas le but du déplacement, mais ces questions pourraient être évoquées, rétorque Fatia Keloua Hachi.
Bien sûr qu'on va discuter avec les parlementaires algériens et on verra justement si on peut aborder le sujet notamment de Boualem Sansal, mais d'autres sujets.
Comme celui du Sahara occidental qui empoisonne les relations franco-algériennes depuis la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur ce territoire.
Timur Öztürk, la garde à vue de l'animateur Stéphane Plaza levée hier soir. Il avait été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, une faible quantité de cocaïne retrouvée à son domicile. Il fait l'objet d'une alternative aux poursuites, c'est-à-dire qu'il doit verser 3000 euros de contribution et son portable est confisqué, comme le prévoit la nouvelle circulaire du ministère de l'Intérieur. À Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, nous vous avons déjà parlé des accusations dont fait l'objet le directeur d'un établissement scolaire catholique de la ville, le lycée Notre-Dame d'Espérance. Il est suspecté de comportements inappropriés envers des jeunes filles élèves. C'était lors d'un voyage scolaire. Hélène Roussel, vous nous apprenez aujourd'hui qu'il vient d'être licencié.
Le diocèse confirme sans autre commentaire. Malgré tout, cette décision en dit long. Jamais une direction diocésaine n'a licencié un chef d'établissement sans motif avéré. Selon les syndicats, ça veut bien dire que la procureure a fait avancer le dossier. Le parquet n'avait jusqu'à présent pas pénalement qualifié les faits. Des faits qui remontent à mi-mars avec la suspension de ce directeur pour comportements inappropriés au cours d'un voyage scolaire. Dans le courrier de signalement que nous avions pu lire, les profs et les lycéennes décrivaient une attitude plus générale de ce directeur depuis son arrivée en septembre. Intrusion à l'internat, caresses sur les hanches, mots susurrés dans l'oreille ou dans le cou. Le directeur a porté plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Et dans un mail envoyé hier soir à l'équipe pédagogique, il se défend encore, conteste des faits sortis de leur contexte, assure avoir été jeté en pâture, lui qui a, dit-il, toujours œuvré pour le bien-être des élèves. Une réunion d'information avec les enseignants montée en urgence ce matin a été annulée, in extremis. Les conditions ne permettent pas un échange serein, explique la nouvelle direction du lycée. Ça donne une idée de l'ambiance qui irait.
Information signée ici, Loire-Océan. Tous ceux qui ont fait l'expérience ont compris l'ampleur du problème. Vous entrez dans une classe de terminale au moment d'un enseignement de spécialité scientifique et vous compterez très rapidement les élèves filles. Elles sont bien moins nombreuses que les garçons et c'est encore pire dans les études supérieures. 25% d'étudiantes seulement dans les formations conduisant au métier d'ingénieur et du numérique. Alors la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dévoile un plan qui prévoit notamment l'expérimentation de classes scientifiques à horaires aménagés pour les collégiens 4e et 3e. Il y aura 50% de filles dans chacune de ces classes. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour Jérôme.
Vous n'êtes pas au collège mais au lycée, un lycée de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine où une classe d'excellence maths a été créée.
Oui Jérôme, cette classe existe depuis 8 ans, 2 heures de maths en plus par semaine et l'objectif d'avoir plus de filles dans les filières scientifiques. Élise en fait partie, elle rêve d'astrophysique plus tard. Il y a beaucoup de garçons dans sa filière et ce n'est pas toujours facile.
On se sent beaucoup moins écouté et beaucoup moins entouré qu'avant. Ils ont beau être très sympas, on a besoin de cette présence un peu féminine pour qu'on se serre des coudes, etc. Ce qui était moins le cas du coup dans cette classe.
L'enjeu, c'est la féminisation. La ministre de l'Éducation nationale insiste sur ce projet dans cette classe. Une meilleure représentation pour plus de femmes ingénieures ou techniciennes. La clé, c'est de ne pas s'auto-censurer. Lou est poussé par ses parents dans sa volonté d'aller à Polytechnique.
On peut vite aussi tomber dans le « oui, je suis une fille ». Et moi aussi, je le vois par exemple parfois. Parfois, j'ai mes propres limites. Parfois, je me sens inférieure alors que je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais il n'y a pas de raison, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bah non, je suis là parce que j'ai telle aptitude et je sais ce que je fais. Pas douter, finalement.
Former et sensibiliser les professeurs, c'est un autre volet de ce projet. C'est essentiel pour Madame Sabani, professeure de mathématiques à l'initiative de la création de ce pôle d'excellence en mathématiques.
Cette année, je suis à presque 50% de filles dans ma classe, ce qui n'était pas le cas du tout depuis 2017. Et l'année prochaine, on dépasse le nombre de garçons.
Ce modèle inspire. La ministre de l'Éducation veut tester au collège des classes aménagées avec plus de maths. 50% de filles minimum dans l'effectif. L'expérimentation doit commencer à la rentrée dans 5 académies.
Mathieu Bonnour en direct de Courbevoie avec les moyens techniques d'Éric Audra. Alors, vous nous le suggérez Mathieu, faisons un peu de maths avec un peu de foot aussi. 7 buts hier soir dans la première demi-finale de Ligue des Champions de football. 4-3 pour l'Inter Milan face au FC Barcelone. Milan qualifié pour la finale de Munich après les 6 buts du match aller. Ça nous en fait 13 en deux rencontres. Quel spectacle pour le Paris Saint-Germain après la victoire 1-0 la semaine dernière à Londres face à Arsenal. Un match nul suffit ce soir pour disputer une deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire après celle perdue en 2020. Et le consultant de France Inter, Vicente Lizarazu, vainqueur de cette compétition en 2001, est plutôt confiant.
Je suis optimiste parce qu'à l'aller, Paris a été supérieur, je dirais même largement supérieur. Donc s'ils jouent à 100% de leur qualité, je pense que ça va bien se passer. On sait très bien par contre que... cette confiance, ce match à 100%, il est jamais garanti. Il peut tout se passer, on l'a vu hier, entre l'Inter et Barcelone. Il y a tout un tas d'éléments depuis le début de l'année 2025 qui me font penser que cette équipe, elle est très très difficile à jouer. Elle est en confiance grâce à son entraîneur, Luis Enrique. Et qu'elle a toutes les capacités pour se qualifier en finale.
Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Ça sent le très grand match ce soir au Parc des Princes, forte affluence et des stars au mètre carré.
Ah oui, parce qu'on attend le 164e guichet fermé d'affilée hein, au Parc des Princes, 48 000 personnes attendues. Et comme à chaque fois en effet, eh bien, des personnalités dans la fameuse corbeille, cette tribune présidentielle avec d'anciens footballeurs. Il y aura des personnalités également politiques. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, est attendue. On devrait aussi croiser peut-être le président du Rwanda, Paul Kagame, parce que son pays, le Rwanda, est partenaire à la fois du PSG et d'Arsenal. Spectacle aussi en tribune, notamment à Auteuil-le-Cup. Le collectif Ultra Paris annonce un tifo historique qui va couvrir les deux étages de la tribune. Son président, Romain Mabille, était l'invité d'ici par Île-de-France.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tifo que je pense qu'il va plaire à l'ensemble des supporters du PSG. Pour mettre en valeur la ville, le club et pour pousser les joueurs, ça fait partie du truc. Donc, ouais, c'est 400 personnes qui sont mobilisées depuis le match retour. Ouais, on a bossé dur.
Et pendant longtemps, ces derniers jours, des appels au rassemblement autour du parc pour ceux qui n'ont pas de billets avaient été lancés. La préfecture de police de Paris a indiqué en fin de matinée que seuls les détenteurs de places pourraient se rendre aux alentours du stade. Sur les réseaux sociaux, des comptes donnent d'autres lieux de rassemblement comme le Trocadéro, le Pont d'Iéna ou le Champ de Mars. Les Champs-Élysées, bien sûr, seront aussi prisés. C'est là, notamment, que le compositeur Didi Snake, grand fan du PSG, donne rendez-vous en cas de qualification, bien sûr.
Merci Jérôme Val. 21h pour le coup d'envoi. Le tifo préparé à la main, hein. C'est ce que les supporters tiennent à préciser à chaque fois. On va reparler un petit peu de foot avec le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses. Prêt.
et Alexis Demeyer avec nous comme chaque mercredi. C'est le dernier d'ailleurs avant le avant Cannes, avant le festival la semaine prochaine, c'est ça, mardi prochain?
Oui, ça commence mardi soir.
Mardi prochain pour l'ouverture. On le sent au niveau des grosses sorties de la semaine, elles sont un petit peu moins nombreuses que d'habitude. Vous avez quand même déniché quelques pépites. On commence par Un monde merveilleux, une comédie avec Blanche Gardin.
Je suis pas là pour me faire insulter. Donc c'est Hervé qui va s'occuper de vous.
Bonjour.
Elle est où ma fille?
Elle a été placée dans un foyer. Vous risquez 5 ans de prison. Voulez-vous ajouter quelque chose?
Va te faire foutre par exemple?
Par exemple.
C'est la place de plus en plus grande de la technologie dans notre société qu'interroge cette comédie très pince sans rire. Nous sommes dans un futur proche. Max est une ex-prof désormais au chômage car remplacée par l'un des nombreux robots qui aident la population à faire les courses, la cuisine ou même conduire. Max déteste ce système qui ne cesse de se développer et tente d'en préserver sa fille qu'elle élève seule. Pour éviter que les gags finissent par nous lasser, le metteur en scène Giulio Calegari, pour son premier film, a la bonne idée de ne pas franchir la barre des 1h20 et la présence de Blanche Gardin porte cette comédie de la première à la dernière scène. La comédienne est décidément parfaite dans ce genre de rôle, celui d'une quadra névrosée dont la vie alterne entre conviction et lâcheté.
Autre film français que vous nous recommandez, Les Arènes, un thriller dans les coulisses du foot business.
Ouais, les arènes du titre, ce sont celles des gladiateurs au temps de l'Empire romain. La réalisatrice Camille Berton file en effet cette métaphore pour évoquer le destin de ces espoirs du ballon rond baladés d'une équipe à l'autre au gré des humeurs et des coups de poker des puissants agents et des propriétaires de clubs.
Il me semble qu'on avait un deal, vous et moi, que Brahim soit le prochain à signer. Vous m'aviez donné votre parole. Ils sont en concurrence sur le poste.
L'agent de Ismaïla, ils sont comme ça avec les nouveaux actionnaires.
T'as des pays en or, toi? Ils attendent quoi pour te faire monter avec les pros?
Le Lyonnais Brahim va-t-il réussir à signer le contrat qu'il mérite ou bien se fera-t-il arnaquer? Le suspense tient jusqu'au bout, permettant aux arènes de prolonger la comédie dramatique Mercato, sortie il y a quelques mois et elle aussi consacrée au milieu du foot européen.
Avec Jamel Debbouze, me semble-t-il. Direction le désert tunisien maintenant pour les enfants rouges.
Deux jeunes bergers guident leur troupeau lorsqu'ils sont attaqués par des djihadistes. L'un des deux ados, Nizar, est décapité. Son ami Ashraf est chargé de ramener la tête à sa famille.
ربط نزار وضربوني سألوا برا سؤالات لنزار أما نزار ما يحبش جوابها.
Le réalisateur tunisien Lotfi Achour s'empare d'un fait divers de 2015 qui avait traumatisé son pays et il en fait une œuvre aussi onirique que politique qui mérite vraiment le détour.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis?
Rumors, Nuit blanche au sommet, une comédie noire avec Cate Blanchett dans le rôle d'une chancelière allemande qui assiste à un sommet du G7 qui part en cacahuète. Les musiciens avec Valérie Donzelli en organisatrice d'un concert-événement réunissant 4 violons Stradivarius et Soudan Souviens-toi, un documentaire dans lequel la réalisatrice Ine Medeb tente de dresser le portrait de la jeunesse soudanaise cabossée par des décennies de dictature et de guerre.
Merci Alexis Demeyer, on vous retrouve mercredi prochain.
Avec grand plaisir, sur la croisette.
Et ce sera donc en direct de Cannes. J'ajoute la disparition qu'on a appris il y a quelques minutes de l'écrivain et académicien Angelo Rinaldi, qui était également critique littéraire, prix Femina 1971. Il s'éteint à l'âge de 84 ans, annonce l'Académie française. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis à 13h30, comment mieux protéger nos arbitres? Sans eux, pas de rencontres sportives et les agressions sur les terrains de foot alimentent la chronique ces dernières semaines. J'attends vos témoignages, que vous soyez joueurs, joueuses, spectateurs du dimanche ou arbitres de foot amateurs, 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton, la nouvelle vie d'une figure de l'Assemblée nationale. André Chassaigne, que nous suivons toute cette semaine sur ces terres du Puy-de-Dôme. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Patrice Trappier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Patrice, les allergies avec vous.
Oui, et une question qui préoccupe chercheurs et médecins, pourquoi elles augmentent aussi vite et elles sont vraiment en nombre croissant.
Et avec vous Frédéric, un musicien.
Un pianiste de jazz, il est israélien, il s'appelle Yaron Herman, il se produira le 16 mai au festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et avec lui nous écouterons un morceau de Sufjan Stevens, une ballade magnifique que Yaron Herman écoute très régulièrement depuis maintenant 10 ans.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter présente
le podcast
Adolescence.
Louise Aubéry.
Qu'est-ce qu'un adulte? Et surtout, comment le devient-on quand on n'a pas eu de mode d'emploi? Je suis allée à la rencontre de philosophes, de neuroscientifiques, de sociologues. J'ai demandé à André Comte-Sponville de m'éclairer sur l'amour, à Alice Ribaud, comment préserver nos amitiés, à Salomé Sacqué, comment se construire dans un monde qui brûle.
Le podcast Adolescence.
À télécharger sur l'application Radio France et à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter et sur Spotify.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Une météo encore un peu fraîche aujourd'hui.
Oui, les vents dominants restent au nord-est. Ils entretiennent encore aujourd'hui une certaine fraîcheur avec 13 à 20 degrés quasiment partout cet après-midi. On attend seulement 13 degrés à Lyon, 14 à Grenoble ou à Caen. Il fera 17 le long de la Loire ou de la Seine, plutôt 19 le long de la Garonne et jusqu'à 20 degrés dans le golfe du Lion. Le vent de nord-est souffle 40-60 km/h le long de la Manche ou autour des Vosges. Et dans la moitié sud, ce vent se prolonge en mistral, en tramontane et en vent d'ouest assez fort sur l'ouest Corse. Un ciel variable à nuageux concerne cet après-midi la plupart des régions, avec des éclaircies un peu plus généreuses dans le nord-est et de l'autre côté, des plaines du sud-ouest au Languedoc. Il reste plus chargé dans le nord-ouest, ce ciel ainsi que sur les Pyrénées et surtout d'Auvergne-Rhône-Alpes vers la Provence. Le temps est généralement sec en plaine, les bruines vont cesser près de la Manche et cet après-midi, des averses isolées se déclenchent surtout sur le relief, avec de la neige au-dessus de 2000 mètres. Elles sont fréquentes du Jura aux Alpes et on surveille même entre le nord de la Corse et le sud des Alpes, un risque orageux qui pourrait déborder sur la Côte d'Azur ce soir. Demain, les températures seront bien souvent en hausse, elles seront même globalement de saison. Quelques averses circuleront encore dans l'ouest ainsi que sur le relief.
Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
La scène se déroule le 16 février dernier à Ladoix-Sérigny. Nous sommes dans le département de Côte d'Or. C'est un match de foot, première division départementale. Ce n'est pas faire injure aux joueurs que de dire que l'enjeu est plutôt modeste. Pourtant, à la 60e minute, l'arbitre du match adresse un carton blanc à un joueur de Saint-Rémy pour une contestation assez virulente, dit-il. Le joueur doit sortir 10 minutes, c'est la règle. Mais puisqu'il ne parvient pas à se calmer, son entraîneur préfère le garder sur le banc jusqu'au bout du match. Manifestement, ça ne suffit pas à l'apaiser, puisqu'après la rencontre, ce joueur assène un coup de pied dans le dos à cet arbitre qui tombe au sol. Son médecin prescrit une interruption de travail de 8 jours. Dépôt de plainte, le procès a lieu aujourd'hui. Et malheureusement, de tels faits se sont multipliés ces dernières semaines sur les terrains.
Deux figures du foot français sanctionnées en l'espace d'une semaine en raison de leur coup de sang contre des arbitres. 15 matchs de suspension pour Pablo Longoria, le président de l'OM. Et hier soir, Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a été suspendu 9 mois.
Quant aux arbitres de football amateurs, ils ne chausseront pas les crampons ce week-end en Indre-et-Loire, ni le week-end suivant. Les arbitres du district de Tours ont exercé leur droit de retrait après l'agression de l'un des leurs au début du mois.
On est très en colère, les arbitres. Il faut que les sanctions soient très sévères parce que le foot français doit être absolument exemplaire.
245 faits de violence physique contre des arbitres uniquement chez les amateurs l'an passé. On en a déjà comptabilisé 110 sur les deux premiers mois de cette année 2025, janvier et février. Pour quelles raisons? Comment réagir? 01 45 24 7000 pour être avec nous, pour vos questions, pour vos témoignages. Vous passez également via l'application France Inter. Je vous présente nos invités. Christophe Russo, bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes arbitre dans le département de Côte d'Or, formateur également des arbitres au club de football de Dijon. Et vous allez poser le sifflet, si je puis dire, dans quelques semaines. Vous allez nous expliquer pourquoi. Nous sommes également en ligne avec Thierry Delhomme. Bonjour.
Bonjour.
Président du district de la Loire de football. Vous avez mis en place une expérimentation autour des caméras. Et vous nous direz comment ça fonctionne et si vous obtenez des résultats. Jackie Humler est là également. Bonjour à vous.
Bonjour.
Secrétaire général du district d'Alsace de football, l'Alsace où les arbitres ont posé leur sifflet après une série d'agressions. C'était la semaine dernière, jeudi dernier, ils ont refusé en partie d'arbitrer les matchs. Vous nous parlerez du contexte chez vous. D'abord avec vous, Christophe Russo, votre décision d'arrêter d'arbitrer, à quoi est-elle liée? Comment l'avez-vous prise?
Tout d'abord, merci pour cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur vos antennes. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée quand même chaleureuse et fraternelle pour notre ami Cyril et camarade arbitre qui est actuellement au tribunal de Dijon.
L'arbitre dont je relatais l'agression il y a un instant.
Exactement. Et le joueur a déjà été sanctionné de 20 ans de suspension, ce qui est une chose à souligner et à faire remarquer.
Ça a joué dans votre décision, Christophe Russo ?
Bien sûr. Oui, tout à fait. Puisqu'à titre personnel, déjà, j'arbitre depuis une quinzaine d'années. Et chaque week-end, bien évidemment, on est confronté, quoi qu'il arrive, à des incivilités, et qu'elles soient plus ou moins graves.
Mais ce sont des incivilités qui sont plus fréquentes depuis quelques mois ?
Je pense que ça s'est empiré avec les années, mais c'est un peu le reflet de notre société aujourd'hui, où la figure d'autorité est mise à mal dans n'importe quel domaine, que ce soit nous dans le sport en tant qu'arbitre, pour les forces de l'ordre aussi au niveau national, également pour les professeurs, des professeurs qui doivent justifier aujourd'hui des notes qu'ils mettent parce qu'elles sont jugées trop basses. Moi, à titre personnel, j'ai été confronté à ça dans l'exercice de l'arbitrage, pas plus tard que l'année dernière. J'inflige un carton rouge à un joueur pour des insultes après match. J'ai été convoqué par ma commission départementale de l'arbitrage pour justifier de ce carton rouge. Et en seconde instance, la sanction du joueur a été réduite, puisqu'en plus, au sein de la commission de discipline, il y avait un des dirigeants qui était présent à ce match-là qui m'a lui-même insulté de malhonnête en pleine commission. Donc, pour tous ces motifs, moi, aujourd'hui, je vais me consacrer sur la formation des jeunes et puis essayer de leur donner un maximum d'armes pour être armés sur les terrains et pouvoir réagir en conséquence.
L'arbitrage au centre du terrain, c'est fini pour vous. Ces incidents, ils sont consignés, c'est ce que vous faites, hein, Christophe Russo, dans des rapports.
Bien sûr.
C'est ça que vous envoyez au district de Côte d'Or. Ces rapports, ils vous parviennent, Jackie Humler, vous qui êtes en Alsace. Les lundis, vous découvrez ça et vous avez de plus en plus d'affaires de ce type ?
Alors, je crois qu'il faut remettre les choses un peu en perspective. En Alsace, pour vous dire, nous sommes le premier district, ou en tous les cas le district le plus important de France, avec 85 000 licenciés, plus de 500 clubs sur notre territoire.
C'est les deux départements, pardonnez-moi, Jacques Humler.
Oui, c'est les deux départements, 67 et 68. Donc, plus de 1500 matchs chaque week-end. Et effectivement, tous les week-ends, nous arrivent des rapports d'arbitrage avec des faits qui sont cités, des faits d'agression, des faits d'incivilité, des brutalités, des choses comme ça. Je crois que... On est nulle part en France, nous ne sommes à l'abri de ce type de comportement. L'idée, c'est pour nous, au sein des instances, de veiller à ce que effectivement les choses ne s'aggravent pas. Elles ont l'air de s'aggraver comme ça, hein, quand on prend les chiffres à l'état brut. Mais si je fais le rapport chez nous, 1500 matchs sur un week-end, allez, moins de 2% de rencontres se terminent mal, se terminent avec ce type de fait. C'est toujours de trop, hein, bien évidemment. Et l'instance travaille depuis... Alors, j'ai repris personnellement le dossier depuis 2 ans.
On travaille 1500 matchs, ça veut dire que ça fait plus de 20 matchs où ça 1000, se termine 1000, mal
1500 matchs.
Oui, mais si on fait c'est moins de 2%, allez, bah oui, mais donc ça fait 20 matchs, 15-20 matchs qui se terminent mal. Si on a des coups sur 15-20 matchs chaque week-end...
Non, pas que des coups. Non. Des attitudes qui sont liées à l'incivilité, ou des propos racistes ou des choses comme ça. Non, heureusement, les brutalités, pour vous dire, sur la première partie de saison que nous avons faite là, sur la totalité des dossiers qui ont été traités par nos commissions de discipline, 31 dossiers concernaient des faits adressés à des arbitres. Et sur les 31 dossiers, nous avions en fait 4 dossiers de brutalité avec des coups violents portés à des arbitres.
Carole nous appelle de Normandie. Bonjour Carole.
Bonjour.
Je crois que votre fils arbitre.
Exactement, mon fils est un arbitre de foot en Normandie. Et moi je voudrais saluer l'engagement de tous ces jeunes arbitres qui donnent de leur temps le week-end. et qui sont victimes, qui peuvent être victimes de la part des supporters de violences verbales. Alors, il y a des enjeux sportifs hein, sur le week-end, mais ces jeunes qui s'engagent sont jeunes, voilà, ils doivent prendre des décisions très rapidement, ils peuvent se tromper, et en face, il y a quelquefois des supporters qui ont des propos violents et qui peuvent être de nature à les décourager. Voilà, encourageons-les. Le sport, c'est un espace de respect, de convivialité, de fair play et pas un espace d'insultes.
Donc, je voudrais pourquoi il fait ça, votre fils, Carole? Qu'est-ce qui lui plaît dans l'arbitrage?
Parce qu'il aime le foot, parce qu'il aime défendre les valeurs liées au foot, parce qu'il faut des arbitres pour que ces matchs puissent avoir lieu. Il faut des arbitres et sans arbitres, il n'y a pas de match.
Bien sûr.
Voilà. Et les supporters sont des parents, ce sont des encadrants, ce sont des coachs. Et face aux enjeux, quelquefois, il y a des débordements et on ne peut que regretter des débordements de plus en plus nombreux.
Bon, il continue votre fils?
Oui, il continue, mais s'il est victime de violences physiques, moi je ne l'encouragerai pas.
Ce qui ne lui est pas arrivé, ce que je comprends.
D'accord. Et j'espère que ça ne lui arrivera jamais. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui s'engageront dans cette voie, parce que c'est un bel engagement.
Voilà, et on apprend énormément de choses, évidemment, en revêtant la tenue d'arbitre. Merci Carole pour cet appel.
Merci à vous.
On a posé le problème, Thierry Delolme, il a été le vôtre dans le district de la Loire, autour de Saint-Étienne, et vous avez décidé d'expérimenter la pose de caméras en fait sur les arbitres. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne?
Depuis 2017, effectivement, donc on a eu cette vision. En fait, au départ, c'est d'abord une vision globale de l'arbitrage. Il faut savoir que le barème disciplinaire tel qu'il est construit aujourd'hui, il a été essentiellement à travers les revendications et les attentes des arbitres. Or, malheureusement, il a laissé pour compte un peu les joueurs, avec un barème de sanctions sur les joueurs qui est plutôt faible au regard de certains actes. Donc l'idée, c'était de comment aborder cette violence globalement. Et la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est effectivement d'équiper nos arbitres avec une GoPro. Parce qu'en fait, GoPro, c'est la marque, mais on appelle ça caméra embarquée. Mmh. Et aujourd'hui, donc près 2017, on doit être à 130, 140 expérimentations. Et sur des matchs à risque, entendons-nous bien, c'est uniquement sur les matchs à risque. Et bien aujourd'hui,
match à risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rivalité, par exemple, entre deux équipes?
Plus que ça, c'est sur un passif ouais. disciplinaire, sur des matchs en jeu où on sent, les commissions sentent avec le retour des clubs, des arbitres, des membres du comité directeur ou des commissions, on dit tiens, sur ce match-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, soit on y met simplement un délégué, soit on y met carrément le délégué avec la GoPro. Et sur 130 expérimentations, on a eu zéro retour négatif. Ça veut dire que des matchs complètement apaisés, alors que c'était des matchs en jeu. Les deux seuls cas qu'on a eu, ça a été une fraude d'identité où le garçon est sorti du vestiaire tout sourire en se présentant devant l'arbitre, sauf qu'il était déjà filmé et ça a permis de l'exclure. Et puis un autre cas où un spectateur a frappé un coach adverse. Les images ont été transmises directement au procureur de la République et en 3 semaines, il était exclu des terrains. Donc il y a une efficacité avec les policiers qui disaient, mais avec des images comme ça, c'est facile de travailler.
Mais est-ce que les clubs peuvent agir pour les spectateurs? C'est leur responsabilité d'ailleurs, Thierry de l'homme, s'il y a des insultes par exemple, c'est la responsabilité de quelqu'un du club de sortir la personne?
Honnêtement, comment voulez-vous demander à des dirigeants bénévoles de gérer 300 personnes alors qu'ils n'ont pas cette autorité? Je crois qu'on doit aller au-delà du club sur les spectateurs. Autant le rectangle vert est protégé aujourd'hui avec différents principes, mais aujourd'hui, si on veut traiter la partie spectateur, il faut aller plus loin. D'ailleurs, à l'Assemblée fédérale qui va bientôt se dérouler, je crois que le président des maires de France sera interpellé, puisque c'est dans sa ville, pour justement aborder ce sujet-là, voir au-delà de la fédération, au-delà des dirigeants, voir comment les mairies, les préfectures peuvent agir autour de ces phénomènes extra-rectangle vert.
Vous n'êtes pas en lien avec la préfecture de la Loire? Je sais qu'il y a des conventions qui sont signées dans certains départements. C'est votre
bien
cas
sûr
ou pas?
J'ai un lien direct, j'ai son numéro, son 06 comme on dit, et généralement ça ne met pas un quart d'heure pour réagir. La dernière fois qu'on a eu le sujet, j'ai dû appeler, une demi-heure après, il y avait le procureur avait nommé une personne pour me rappeler, et derrière, dans la demi-journée, les procédures étaient lancées. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci.
Frédéric nous appelle du département de la Lozère. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi, je voudrais juste demander, est-ce que ce ne serait pas aux joueurs professionnels de montrer un peu l'exemple ? Parce que depuis des années, moi, j'ai vu se dégrader les joueurs
professionnels. L'attitude des joueurs pro.
Oui, oui. Ouais. Il y a des joueurs professionnels qui contestent des décisions d'un arbitre, qui font même quelquefois des mauvais signes dans leur dos, et ainsi de suite, se montrent un peu plus haut, font un peu pression sur eux. Est-ce que ce ne serait pas à eux de montrer l'exemple ? Parce que ces joueurs professionnels, malheureusement ou heureusement, ce sont les idoles de beaucoup de gamins, et le gamin, il reproduit des actes du joueur qu'il apprécie.
Ou de l'entraîneur. On a parlé en introduction de la sanction infligée à l'entraîneur de Lyon il n'y a pas si longtemps. Merci Frédéric pour votre appel. Jackie Humler, est-ce que vous constatez sur le terrain que quand il se passe quelque chose chez les professionnels, il y a un impact assez rapide finalement chez les amateurs, vous qui êtes secrétaire général du district d'Alsace ?
Alors, je ne suis pas complètement sûr, hein, effectivement, de l'impact direct de ces images sur ce qui se passe sur les terrains le week-end, mais en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'image véhiculée aujourd'hui par le monde professionnel est une image plutôt négative, plutôt néfaste. Et bien évidemment que si les choses comme ça peuvent être vues à la télé, pourquoi ne pas reproduire les mêmes choses sur les terrains de foot tous les dimanches ? Comme le disait Christophe Russo tout à l'heure, fait de société, hein, notre société a évolué, les gens sont globalement plus agressifs.
Alors justement, comment est-ce qu'on travaille avec les gens et notamment avec les parents dans les clubs ? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour expliquer aux parents que il faut peut-être baisser d'un ton vis-à-vis des autres joueurs et vis-à-vis de l'arbitre aussi.
Alors, nous allons mettre en place au sein du district d'Alsace une action en collaboration avec les clubs qui va viser à mettre en place dans chaque club des chartes qui seront destinées aux parents qui inscrivent leurs enfants au sein du club, charte qui reprendra les principes à respecter, les attitudes à avoir au bord du terrain, avec les éducateurs, avec les enfants, avec les arbitres. Et cette charte devrait normalement aboutir à une sanction indirecte hein, pour les parents. Vous respectez pas cette charte, votre gamin il joue plus chez nous.
Donc vous êtes prêt à ça ?
Oui.
Christophe Russo, la difficulté aussi de traiter avec des parents, vous l'avez expérimenté en arbitrant peut-être des jeunes ?
Oui. Les parents, les spectateurs, tout l'environnement en dehors du rectangle vert, comme ça a été dit jusqu'à présent. Néanmoins, j'aimerais revenir sur un
très
fait.
Très rapidement, parce qu'on a un auditeur en ligne et il nous reste une minute.
Sur l'altercation qu'il y a eu à Lyon avec Paolo Fonseca, moi j'étais à ce moment-là en charge de former 3 jeunes arbitres. Et sur les 3, le lendemain, après les images, il y en a un qui m'a envoyé un message en me disant j'arrête, on n'est pas protégé.
Donc conséquence directe sur l'attitude des arbitres amateurs quand un arbitre professionnel est agressé. Christophe nous appelle de Lille. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Je voudrais vous laisser la possibilité de livrer votre témoignage aux auditeurs.
Moi ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai 66 ans et je trouvais le moyen encore d'insulter régulièrement les arbitres et autres. Voilà, j'avoue, j'ai fait partie de ces gens. Alors insulte à jamais de violence physique, effectivement.
Comme spectateur.
Mais depuis que j'ai eu l'occasion d'arbitrer quelques matchs, j'ai fait un vie-ma-vie, je me mets dans la peau d'un arbitre et je pense qu'on comprend beaucoup mieux. Donc moi je pense qu'il faudrait tous les gens qui font la violence envers les arbitres, leur proposer d'arbitrer, voire même leur imposer si ça a été de la violence physique ou des choses comme ça, un certain nombre de matchs. Et je pense qu'ils comprendront.
Vous faites de la pédagogie autour de vous maintenant, Christophe.
Alors, je crois que c'est beaucoup plus efficace de sensibiliser, de faire de la pédagogie que d'aller rajouter des caméras, des trucs, faire des palliatifs. Il faut faire du préventif. Mmh. Il faut sensibiliser, il faut former, il faut accompagner en amont.
Merci.
Dès le plus jeune âge, idéalement. Il faut faire arbitrer nos jeunes footballeurs. Mmh. Il faut qu'ils arbitrent des matchs.
Merci Christophe pour ce témoignage et pour votre franchise aussi de dire moi ça m'est arrivé mais j'ai réussi à changer en prenant un sifflet. Je voudrais remercier tous nos invités ainsi que nos confrères d'ici, ex-France Bleu, à Strasbourg et à Saint-Etienne pour les moyens techniques. 13h47 sur Inter. Une semaine dans la vie de l'ancien député André Chassaigne, 23 ans à l'Assemblée. Il vient de rendre son écharpe pour se consacrer à la vie de sa commune du Puy-de-Dôme, Saint-Amand-Roche-Savine, 500 habitants. Notre reporter Claire Flochel l'y suit toute cette semaine. Il s'y est fait réélire maire adjoint avec comme mission faire revivre le collège et rénover l'église.
Alors là, c'était une auberge. Auberge qui a fermé. On a un dépôt de pain à Saint-Amand-Roche-Savine, mais le boulanger a fermé. Il y a un mois, deux mois à peu près, tout ferme dans nos villages. Il y a des fois, je suis un peu attristé d'une forme de dépérissement, en fait, quoi. On va rentrer. C'est déjà ouvert, je ramasse la clé, moi. Donc, toute l'église, on l'a rénovée par plusieurs tranches successives. Donc, il reste à faire ces chapelles latérales, là, il y a avec des étoiles, qui sont en fait des décorations du 19e siècle. Les églises avaient beaucoup de bleu de cette façon. Il y a de ce côté et il y a de l'autre côté celle-ci. L'idée, c'est aussi de la rendre attractive au niveau touristique, avec une brochure d'explications et des photos. L'église est en totalité classée monument historique, la Pietà. Et on a surtout à l'intérieur des vêtements sacerdotaux. C'est extrêmement beau, quoi. Quand on a une commune comme ça, qui n'a pas a priori d'attraction extraordinaire, le fait d'avoir un bijou, en fait, hein, eh bien, il faut la valoriser. Et puis, j'ai toujours été attaché aux vieilles pierres. Je n'ai quand même pas ajouté que ma femme est catholique pratiquante, hein, Serge. Hein, je ne peux pas me permettre de dire ça. Et j'ai de bonnes relations avec les prêtres.
Je suis Serge Joubert. Je suis élu maire de Saint-Amand-Roche-Saville. Ça doit faire 8 ans. Je suis de gauche. J'ai ma carte du Parti communiste dans la poche. J'avais une profession libérale, j'étais agriculteur. Et quand j'ai commencé à baisser un petit peu de volume sur mon exploitation, je suis devenu adjoint avec André Chassaigne, puisque mon premier mandat était avec André Chassaigne quand il était maire.
Et là, du coup, ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est lui qui devient votre adjoint.
C'est assez original et on ne s'en est pas vraiment rendu compte, puisque où j'ai un peu eu le déclic, c'est le jour où il a été élu. Je me suis dit, c'est quand même un adjoint de luxe. C'est quand même pas souvent que cette situation se présente. Et c'est vrai qu'avec André, on s'est suivi depuis qu'on est jeune, depuis qu'André a commencé sa politique pratiquement. Et ça a été une habitude de travail et une habitude humaine en plus, parce qu'on s'est très bien entendu et respecté. Mais sa mission, on l'a un peu définie. Bon, pour commencer, il reste un travail à faire sur l'Église. Et le collège, qui aujourd'hui nous pose des gros problèmes, puisqu'il nous impacte la trésorerie de la commune d'une façon très importante. Le département nous l'a laissé avec toutes les charges qui incombent. C'est dommage de laisser ce bâtiment fermé. Et la mission d'André, ça va être effectivement de travailler énormément là-dessus.
Donc c'est un collège qui aujourd'hui est vide, il n'y a plus d'élèves dedans.
Ben la partie collège, non, il ne se passe absolument rien. Le tout, c'est d'essayer de trouver ou des classes vertes ou des choses comme ça pour retravailler et retrouver une économie pour au moins couvrir les charges que ça entraîne aujourd'hui. C'est très important pour une collectivité de 500 habitants comme la nôtre.
Je profiterai des réseaux que j'ai pour essayer de trouver des solutions. Il faut que je fasse ça dans l'humilité, sans faire de l'ombre et que j'apparaisse pas comme étant celui-là qui tire les ficelles. Il faut que les choses soient très claires, mais je sais faire. Vraiment, je ne me fais pas de soucis. J'ai l'impression de continuer le fil de ma vie de façon différente et avec une forme de retour aux sources. J'ai été maire adjoint à l'âge de 27 ans. Je redeviens maire adjoint à l'âge de 75 ans. C'est pas beau, ça ?
Et avec les petits oiseaux en prime, la nouvelle vie d'André Chassaigne. Réalisation Stéphane Ronxin. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h51, avec le 1 hebdo. Et aujourd'hui, Patrice Trappier. Patrice, vous nous parlez donc de la maladie du printemps, les allergies.
Oui, et Jérôme, vous pourriez me dire que c'est un marronnier. Mais si nous consacrons notre nouveau numéro du 1 aux allergies, c'est parce que c'est un sujet brûlant qui concerne de plus en plus de monde. Pour l'OMS, c'est la 4e maladie chronique la plus répandue dans le monde, derrière le cancer, le sida et les maladies cardiovasculaires.
De quoi parle-t-on exactement avec les allergies ?
D'un excès de défense contre des substances pas forcément dangereuses, pollen, acariens, protéines sécrétées par les chats. Attention, certaines allergies alimentaires peuvent être mortelles et il ne faut surtout pas les confondre avec les intolérances comme celle au gluten. Et puis il y a ces fameuses piqûres de guêpes dont l'une aurait tué en l'an 2600 avant notre ère le pharaon Ménès Ier d'un choc anaphylactique. Vous voyez, les allergies ne datent pas d'hier, mais le phénomène est en constante augmentation, 6 à 7% des Français dans les années 70. 30% aujourd'hui, sans doute un Français sur deux en 2050.
Comment est-ce qu'on explique cette explosion ?
Il y a d'abord le réchauffement climatique, qui entraîne leur augmentation à cause de floraisons plus précoces, une durée d'exposition plus longue, une extension géographique d'espèces allergènes comme le cyprès. Il y a aussi la perte de biodiversité qui bouleverse la composition de notre microbiote, essentiel pour nos défenses immunitaires. Et enfin, la pollution. Les particules fines, qui démultiplient la puissance allergène des pollens, tout en rendant nos muqueuses plus perméables. On craint même que certaines pollutions, au diesel notamment, finissent par entraîner une mutation de notre génome.
Bon, ça n'est pas très réjouissant, Patrice. Est-ce qu'il y a tout de même des choses à faire ?
Oui, bien sûr. Les villes et les régions ont commencé à prendre le sujet au sérieux. Quand elles végétalisent, elles évitent les espèces fortement allergènes, comme le bouleau. Elles peuvent même se lancer dans l'arrachage d'hectares d'ambroisie au pollen très agressif. Même chose au Japon, qui a prévu de réduire de 20% sa surface couverte de cèdres. À la maison, il serait bon d'éliminer les produits ménagers odorants, éviter de manger des plats transformés, toujours penser à notre microbiote. Dans l'idéal, il faudrait vivre dans un univers propre, mais pas désinfecté. Après la réunification allemande, on s'est aperçu qu'à l'Est, où le niveau d'hygiène était faible, on comptait beaucoup d'infections, mais très peu d'allergies, et c'était tout l'inverse à l'Ouest.
À l'Ouest de l'Allemagne.
Absolument. Ouais. En fait, il faudrait rester le plus possible au contact des espèces vivantes qui renforcent nos défenses. On compte moins d'allergies à la campagne qu'à la ville. À cet égard, notre regretté Bernard Pivot pourrait nous servir de guide anti-allergique. En effet, il n'a pas passé une journée sans un marron d'Inde au fond de sa poche droite. Il y avait chez lui une part de superstition, mais aussi le souvenir d'une tante qui lui avait enseigné les bienfaits du marron contre les inflammations et pour la circulation du sang. Pivot avait grandi dans la campagne du Beaujolais. Il savait que la faune et la flore sont souvent nos meilleurs amis.
Un marron dans sa poche. Merci Absolument. Pour ce bon conseil, Patrice Trappier. C'est à lire donc cette semaine dans le 1 Hebdo. De C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est un pianiste de jazz israélien. Il s'appelle Yaron Herman.
Il sera la semaine prochaine en concert à Paris dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Il vient par ailleurs de faire paraître Radio Paradise, son nouveau disque. Et c'est de l'américain Sufjan Stevens qu'il a souhaité parler avec une chanson sortie en 2015 sur son 7e album.
Pour moi, il a quelque chose de à la fois fragile et extrêmement intense. Et ce qui se dégage de sa musique, c'est une authenticité et une émotion tellement pure. Il me touche vraiment profondément. Donc c'est quelque chose de direct, même pas rationnel, parce que les productions souvent sont soit extrêmement étranges, avec des instruments un peu bizarres, ou des choses qui sont vraiment lo-fi, enregistrées comme cet album Carrie and Laurel, qui était enregistré dans des chambres d'hôtel, sur un iPhone, par exemple. Donc c'est un peu le contraire de ces grosses productions de pop américaines, tout est léché, tout est parfait, tout est surdimensionné presque. Là, on est dans quelque chose de vraiment sincère, simple, et de par cette simplicité, véhicule une émotion vraiment brute.
Dans une forme d'économie de moyens.
Oui, sur cet album-là en particulier, je pense que c'est lié au contexte dans lequel il a été composé, suite à la mort de sa mère, et une longue période de deuil, etc. Donc c'est pas très très joyeux. Mais à l'intérieur de ces espaces-là, qui font partie de la vie, n'est-ce pas ? Il y a une poésie aussi. Il y a des moments dans lesquels on peut trouver la lumière au fond des ténèbres. Désolé pour les moments un peu kitsch, mais c'est vrai. Now. I search for the castle I lost.
Frédéric, cette chanson a pour titre No Shade in the Shadow of the Cross.
Traduction, pas d'ombre dans l'ombre de la croix. Et c'est le morceau qui touche le plus Yaron Herman dans cet album de Sufjan Stevens, Carrie and Lowell.
Je dois dire que j'aurais pu choisir 5 autres chansons de l'album, voire tout l'album. Mais celle-là, il y a quelque chose dans la mélodie qui me touche particulièrement, la manière dont la chanson se développe, les voix qui arrivent, qui doublent, et quelque chose de vraiment transparent dans cette fragilité que j'adore.
Il y a effectivement ces voix qui se superposent, l'impression d'un chœur.
Oui, c'est une couche supplémentaire, c'est comme s'il y a un écho, il y a une résonance qui vient amplifier le propos, et c'est vraiment un écho un peu céleste.
Il raconte quoi dans cette chanson ?
Alors encore, ces histoires pas très joyeuses, de deuil, etc. Et comme quoi, même la foi, qui pouvait être considérée comme un refuge possible dans ces moments-là, ne fait pas le poids face à la souffrance, face à ces moments-là qu'il a traversés, et en même temps, dans toute cette tristesse liée à cet événement de deuil, il y a aussi la volonté, en tout cas le désir, d'accepter cela comme faisant partie de la vie.
Et est-ce que ça veut dire que quand vous écoutez cette chanson-là, elle vous ramène aussi à des périodes où vous-même, vous viviez des deuils ?
Absolument, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, il y a des petits flashbacks, il y a des résonances, des sensations, des images, des souvenirs.
Des souvenirs joyeux ?
Ah, un mélange. Un peu de tout.
Vous, c'est une musique qui vous accompagne beaucoup ?
Énormément. Énormément. Ça faisait partie de la plupart de mes tournées quand l'album est sorti. Et ça continue toujours comme une fontaine dans laquelle je vais pour me nourrir, de me rappeler que, ah oui, cette chose existe. Ouais, ok, d'accord. Excellent. Phare dans la nuit.
Il représente ça, Sufjan Stevens, pour vous ?
Cet album-là en particulier, oui.
Avec l'idée que si ce genre d'album existe, le monde est sauvé ?
Il y a de l'espoir.
No shade in the shadow of the cross. Sufjan Stevens, c'était donc Frédéric, le choix du pianiste Yaron Herman.
Yaron Herman à l'affiche du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés qui aura lieu la semaine prochaine. Et la suivante, on le retrouvera à Coutances au festival Jazz sous les pommiers.
Merci Frédéric et à demain.